Bonjour and welcome to our podcast series, Une ville, deux réalités, a meeting between Anglos and Francos 50 years after the Official Languages Act. Ce projet a été lancé dans le but de donner aux deux groupes linguistiques la possibilité d'échanger et d'exprimer leur point de vue sur la vie quotidienne afin de mieux comprendre et apprécier la dualité linguistique de la ville de Kingston et les mille îles. This podcast is presented in both official languages.
Bonsoir. Bienvenue à notre cinquième soirée de notre série « Une ville, deux réalités ». Mon nom est Michèle Dubois et je suis la directrice générale de l'ACFOMI. Et j'aimerais d'abord remercier Patrimoine canadien qui finance le projet. Je voudrais aussi remercier la Bibliothèque publique de Kingston qui nous permet gracieusement d'utiliser le local. Ce soir, le thème va porter sur le théâtre et sur les réalités des artistes francophones et anglophones. Good evening and welcome to our fifth series called One City, Two Realities. I'm Michèle Dubois and I'm the executive director of the ACFOMI. I would like first to thank Canadian Heritage for their funding of the project. I also wish to thank the Kingston Frontenac Library, Public Library for the use of their venues. Tonight's theme is the theater and the realities for francophone and anglophone artists. J'aimerais vous rappeler que cette conversation sera enregistrée et disponible en balado sur le site de l'ACFOMI. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos cellulaires. And I'd like to remind you that this conversation will be recorded and available as a podcast on ACFOMI's website, and please turn off your mobile phone. Je vais maintenant passer le micro à Madame Joanne Bénard, votre animatrice pour la soirée, your host for the evening, Miss Joanne Bénard.
Okay, thank you. So when I do my introduction, I think it's my third time, and I begin with the same thing. And you might think it's just, you know, I'm just repeating myself, but I'm starting by saying that I'm really pleased to be here tonight. But it's true. Okay, so please, and this time I'm going to start in French, but as for the other one, and there's somewhere I was not talking French-English that much, but today we'll make an effort to have it in French and English. Our guests will talk in their language, but we're going to, you know, go back and forth as much as possible, and same thing with the audience. If you have questions in French or in English, feel free to ask them at the end, okay? Donc, c'est un réel plaisir pour moi d'animer cette séance de la série Une ville, deux réalités sur le théâtre parce que, comme mes invités, j'ai une passion pour le théâtre. Alors, on va entendre parler aujourd'hui de théâtre francophone et anglophone à Kingston, de ses défis, des productions passées, de projets futurs. Mais on va parler aussi de d'autres aspects du théâtre bilingue. On va parler du théâtre interculturel. Et puis, on va parler du théâtre de différents points de vue, c'est-à-dire point de vue de la création, car nos deux invités sont des praticiens du théâtre, mais aussi du point de vue éducatif et du point de vue de la production. Donc, on en a beaucoup sur notre programme. So it is for me a real pleasure tonight to be the animator of this session of One City, Two Realities on theater, especially because, like my guests, I have a passion for theater. Tonight, we will be talking about Francophone and English theater in Kingston, about its challenges, about past production, about future projects, but other aspects of theater as well. We're also going to talk about bilingual theater. We're going to talk about intercultural theater. More difficult to say in English than in French for me. We'll talk about theater from different point of views, from the point of view of creation, because our two guests are practitioners of of theater, but also from an educational point of view and from the point of view of production. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter, vous inviter dans la langue dans laquelle chacun va intervenir ce soir. Et je vais aussi leur demander ensuite de nous faire une petite présentation un peu plus personnelle en nous parlant de leur rapport au théâtre et de ce qui les anime maintenant et peut-être comment les choses ont changé aussi à travers les années pour eux, brièvement. So without further ado, I'll introduce you, my guests, in the language in which everyone is going to speak tonight. Alors, je commence par Normand Dupont, que plusieurs d'entre vous dans la salle connaissent. Né à Saint-Jean-Port-Joli au Québec, Normand Dupont habite Kingston depuis 1982. Il a enseigné le français langue seconde à l'élémentaire pendant 7 ans et a enseigné 24 ans à l'école secondaire catholique Marie-Rivière. Voilà. Où il a fondé la troupe Quiproquo. Normand est à la retraite depuis février 2013. Il est directeur artistique de la troupe de théâtre communautaire Les Tréteaux de Kingston. Il a joué à 4 reprises au sein de troupes anglophones. On en entendra parler ce soir. Il a été animateur du projet Connexion Théâtre Danse, et il l'est toujours, je crois, pour le Centre culturel Frontenac, donc jusqu'à maintenant, pour faire de la médiation culturelle. Alors, Normand, je vais te demander de te présenter, et puis après, je passerai. After that, I will go to you, Liam. I think it makes more sense that we start this way. Okay.
Ben moi, j'ai toujours aimé le théâtre depuis que je suis tout petit. À l'école secondaire, j'en ai vu beaucoup. On n'avait pas de classe de théâtre, malheureusement. Quand j'étais au cégep et puis à l'université au Québec, j'ai pris toutes les occasions possibles en parascolaire pour pouvoir faire, entre autres, des ateliers de clowns, des trucs du théâtre de la marionnette, donc des trucs qui m'intéressaient vraiment. J'ai étudié en éducation. Lorsque j'ai commencé à enseigner, j'enseignais l'élémentaire pendant 7 ans. Pendant enseignant le français, langue seconde, aux petits de la maternelle, la 8e année, on a besoin d'être acteur un peu. Là. Fait qu'avec les marionnettes, les chansons, la danse. Puis j'ai joint la troupe de théâtre Les Tréteaux de Kingston, une troupe communautaire. Puis c'est vraiment comme autodidacte que je me suis formé. J'ai eu la chance avec Théâtre Action, un organisme franco-ontarien qui supervise le théâtre scolaire, théâtre communautaire et théâtre professionnel en Ontario, offre beaucoup d'ateliers. Alors, j'ai participé à beaucoup d'ateliers avec eux. Puis lorsque j'ai commencé à enseigner au secondaire à Marie-Rivière, j'ai enseigné des cours de théâtre pendant 24 ans. Puis là-bas, j'ai aussi fondé la troupe Quiproquo. Puis on a participé à plusieurs festivals, on a fait venir des professionnels à l'école. Donc c'est comme ça, tranquillement, que le théâtre m'a toujours passionné et me passionne toujours. Alors après avoir pris la retraite, le Centre culturel m'a approché pour travailler un projet qui est parrainé par le Conseil des arts de l'Ontario et Réseau Ontario, qui est un réseau de centres culturels francophones en Ontario, pour faire du développement d'auditoires pour le théâtre de création et les spectacles de danse pour les troupes franco-ontariennes qui viennent présenter à notre centre. Alors donc, depuis 7 ans, je fais de la médiation culturelle, des ateliers avec des groupes très divers. Ça peut être autant le Club Optimiste, un groupe de lecture, des jeunes à l'élémentaire, des jeunes au secondaire, des groupes d'adultes. Ça a vraiment pris plusieurs formes selon la pièce qui est présentée. On identifie des thèmes, on identifie un public cible qui pourrait l'intéresser. On va les rencontrer pour que la pièce soit plus qu'un spectacle qu'on voit de 7h30 à 9h30, mais soit une expérience. Donc.
OK, merci beaucoup, Normand. Et puis, on va reparler justement de ces différentes expériences ensuite. So, Liam, it's your turn. So, a brief biography to begin with. So, you're the artistic producer of the Kick and Push Festival in Kingston. Liam is also a founding artistic director of Single Thread Theatre Company. He was a founding member, so you've been funding a lot of things, of the Collaboratory Theatre Workshop Initiative and the Kingston Theatre Alliance. His most recent directing credit was a site-specific educational installation within a primary school, going to talk about that, and upcoming projects include a site-specific immersive production in Bangkok, Thailand. So, Liam, would you like to add anything? I'm sure you have lots to add, but just a few things for our audience.
Of course. Actually, I think... I think you can hold on to that. Okay. Hello. Thanks. It's a pleasure to be here. Thank you very much for the invitation. It's amazing. And a little bit about me. Well, I grew up in a small town in Ontario, really small, like 800 people small. And I went to high school, and that's when I caught the theater bug. That bug was encouraged when I came to Queens. I went to Queens, studied theater, among some other things. And then after I finished at Queens, I stayed in the city and tried to generate a career as a professional theater artist. And I hit some success with that, but I soon realized because of the type of theater that I do mainly is immersive site-specific work, the way forward was to make my base here and try to do as much work as I can here, but also start to travel and work provincially or nationally or internationally. So that's what I've been doing. As a result of that effort, as you mentioned, I'm one of the co-founders of the Kingston Theatre Alliance, and that organization produces the Kick and Push Festival, which is going into its sixth year. And then Single Thread, my theatre company, which you mentioned, it's still going. We like to make ourselves feel better about our theatre company because we started it at Queen's and it's still going, whereas most of our contemporaries they're not still going. I've just been doing that. Those are my two vehicles. So that's the summary, I think.
Okay, that's good. So, as you can see, we are going to have a lot to talk about. So we kind of thought we would have kind of three themes. And the first one was théâtre bilingue, bilingual theater. And je vais commencer par Normand. Et puis je vais demander, Normand, de te parler de tes expériences de théâtre bilingue à Kingston.
OK, donc il y en a eu plusieurs au cours des années. Une pièce de théâtre bilingue, c'est une pièce où les acteurs parlent et en français et en anglais, mais ce n'est pas une traduction complète. Alors, ce qui est dit en français est paraphrasé après en anglais. Donc, le spectateur, même s'il ne parle pas les deux langues, peut comprendre tout ce qui est dit. J'ai participé à deux productions avec Theatre Kingston, qui à l'époque s'appelait The People's Theatre of Kingston. Donc, ça fait quand même plusieurs années. C'était une coproduction avec les Tréteaux de Kingston. La première était en 1992. C'était Balconville de David Fenario, qui a été monté au Baby Grand. Donc, ça se passe dans la cour arrière à Verdun, à Montréal. Donc, il y a une famille qui est francophone. Donc, on était trois acteurs francophones. Une autre famille qui est anglophone, qui avait un livreur aussi du dépanneur qui était anglophone puis qui baragouinait un petit peu le français. Donc, une pièce à portée sociale très intéressante. En 1996, la même compagnie encore, donc Theatre Kingston, a produit « L'affaire Tartuffe » or « The Garrison Officer Rehearse Molière » de Marianne Ackerman. C'est Craig Walker qui avait fait la mise en scène à ce moment-là, puis plusieurs personnes du département de théâtre de Queens étaient impliquées. C'est une pièce où, dans la période contemporaine, on décide de retourner, de raconter un fait historique qui s'était passé peu après la conquête anglaise. Des Britanniques avaient décidé de monter la pièce « Tartuffe », qui était banni en France parce qu'elle attaquait la religion. Donc, ça avait causé beaucoup d'émoi au sein de la colonie française à l'époque. On y retrouvait des Écossais. Il y avait une Irlandaise qui refusait de parler l'anglais, qui ne parlait qu'en irlandais. Donc, des personnages qui parlaient en français, en anglais, un mélange, là. Donc, c'était vraiment une pièce très intéressante qui soulevait beaucoup de thèmes, donc très politiques dans son essence. Ensuite, une production des productions professionnelles qui sont venues deux fois à Kingston, mais de troupes différentes, L'homme invisible, The Invisible Man, de Patrice Desbiens. Patrice Desbiens, c'est un poète franco-ontarien qui a écrit ce texte. Puis ce qui est intéressant dans ce texte-là, chaque page, donc une page est en français, une page est en anglais. Alors lui, il est né à Timmins, en Ontario, donc il parle les deux langues. Mais le texte est légèrement différent. Je vais vous lire juste la première page. Là. L'homme invisible est né à Timmins, Ontario. Il est franco-ontarien. In English, the invisible man was born in Timmins, Ontario. He is French-Canadian. So, en français, il est franco-ontarien. In English, he is French-Canadian. Puis tout le long de la pièce, c'est comme ça, des nuances vraiment intéressantes. Donc, encore un contexte politique, mais aussi très poétique, un très beau texte. Le théâtre de la vieille 17 l'a présenté en 2004 au Centre culturel Frontenac. Puis, en 2011, Theatre Kingston l'a présenté. C'est deux acteurs de Montréal qui étaient venus, puis ça avait été mis en scène par un acteur de Montréal aussi. Puis donc, ça avait été présenté. Donc, un texte vraiment intéressant. Puis ici, on ne parle pas de traduction, mais plutôt, je dirais, de dualité linguistique. Donc, un auteur qui possède deux langues, puis qui ont vraiment deux éléments culturels très forts rattachés à chacune des langues. Ensuite, deux autres exemples. Une pièce de Mani Soleimanlou, qui a été présentée au Baby Grand. C'est le Grand Theatre qui l'avait fait venir. Sa pièce s'appelait One en anglais. Mais lui, il est d'origine iranienne, mais sa famille a déménagé en France, ensuite à Ottawa. Après ça, à Toronto, il a fait la majeure partie de son éducation au secondaire, puis ensuite à Montréal. Donc, il parle très bien le français et l'anglais. Il avait écrit son texte en français, mais il l'a traduit lui-même en anglais. Donc, il l'a présenté ici en anglais, mais il a fait un soir en français. Puis un peu de façon semblable, au Firehall Theatre à Gananoque, il y avait Jake's Gift de Julia McKay, qui avait été présenté durant l'été, l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve sur les plages en Normandie, puis qui parle à un vétéran qui était là lors de la guerre. Puis donc, elle avait écrit ce texte-là en anglais. C'est une Canadienne anglaise, si je me souviens bien, de la côte ouest de Colombie-Britannique. Puis, mais elle l'a joué en français un soir au Firehall Theatre. Puis c'est la deuxième fois seulement qu'elle a joué en France. Elle avait joué une fois en France avec les vétérans avec qu'elle avait interviewé pour pouvoir écrire son texte, puis la deuxième fois au Gananoque. Donc, c'est vraiment intéressant, ça aussi. Ce sont des pièces solo, il n'y a qu'un acteur, puis c'est l'auteur qui performe sa pièce. Donc, une autre forme de faire du théâtre bilingue. Puis, dernier exemple, ce qu'on appelle le surtitrage. Alors, au Centre culturel Frontenac, depuis 6 ans maintenant, lorsqu'on fait venir des pièces de théâtre en français professionnel, on a des surtitres. So, there's surtitles. We lower the screen above the stage. The play is performed in French, but you can read the text in English. So that's a really good way, especially in the French community. We have a lot of family that we call exogame, un couple où un conjoint est anglophone, un conjoint est francophone. Donc, ça leur donne la chance de pouvoir venir voir cette pièce, ainsi que pour les francophiles, donc les gens qui aiment le français, mais qui ne parlent pas l'anglais. Il va y avoir une pièce, je vais faire une plug en même temps. Donc, le Centre culturel Frontenac va présenter Jack de Marie-Pierre Proulx le jeudi 26 mars à 19h30. Puis on aura les surtitres en anglais. Puis dans cette pièce-là, il y a des extraits de On the Road Again de Jack Kerouac. Puis les extraits de Jack Kerouac seront traduits en français. Donc, vous aurez les surtitres dans les deux langues, si vous voulez. Mais je trouve que ce sont des façons intéressantes de pouvoir mélanger les deux cultures au niveau du théâtre. Donc, c'est un peu sur moi pour théâtre bilingue.
OK. Merci. Thank you. I could see that, Norma, you were almost a teacher. I could see a teacher kind of all the list of... And this is good. Like, there are things I haven't seen, things I've seen, things I thought I should have seen. So it's actually good to see there has been, over the years, that many... production that were bilingual in some ways. So Liam, I know because we've been preparing for this talk today a little bit, and when we talk over the phone, you kind of discover at the end of the conversation that you actually had something you kind of forgot a little bit. And this is an experience I thought, okay, you need to tell that to the audience. I think it will be interesting. And this is something that would have been probably 20 years ago. So I'd like you to maybe, if you're still willing to do that, to talk about that experience. And also, there's something else also that would be intercultural and not necessarily speak, would not be French and English, but there's also another production that would be interesting for our audience.
Okay. Excellent. Okay, well, I think the first production that you're referring to, back when Single Thread was a student company at Queen's, we did a bilingual production. But we did it in a very, we thought we were being really creative and brilliant, but in retrospect, we were young and very sure of ourselves, I think. But I'm proud of it. Anyway, what we did was we did a site-specific adaptation of Henry V, which famously contains both French, and I use that term really loosely, and English. And in the conventional story, the hero, Henry, fights against the French, and the French king and the prince are very arrogant. I mean, I'm brushing this over, and he's not expected to win, and then he gives that great St. Crispin's Day speech, and the British beat the French army, who are overconfident, and Henry wins, and clap, 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 right? And there's some great speeches in there, and it definitely has it, that play has its moments, clearly. So we thought what we should do with it is set it during the FLQ crisis, flip the nationalities around, so Henry and the heroes are the FLQ, the bad guys are, and we sort of got a little bit fluid with history. We made Trudeau the Dauphin because he's more of the arrogant character, and we made the king Pearson just because we thought that would be a good idea. And everyone looked really cool, like we had leather jackets and then we flipped the language around. So we took all the lines that Henry and his colleagues have in Shakespearean, and we tried to we have some fluent Francophones in the company. I am not one of them. And we did our best to flip it all around and maintain the integrity of the lines. And then we took all the English and we took all the French and turned it into garbage English. So, like, just as in the original, the French is garbage. We did that. But, of course, we were young, and that wasn't enough. So we thought it would be better if Single Thread wasn't the only producer of this show, but actually we created a student club, and we really did this, at Queen's that was pro-Quebec sovereignty. And we had that club that we made co-produce this production of Henry V that we did outside by the water near Chernoff Hall, like, because it was new at that point. We got in a lot of trouble. We are at the end of the production again. Like, please, I beseech your understanding. We were all 18. Like, you know, we had basically the spirit of Quebec sovereignty as personified by this character burn the Canadian flag outside on the lawn, we had RMC students who were on, like, doing exercises rush the stage and try to stop us from performing, and our stage managers had to run out. No, it's a play. We didn't burn a real flag. It just looked like a real flag, but we burned it. We had letters in the journal calling us out for our privilege and how dare we attack Canada. We're lucky to live in this country, et cetera, et cetera, et cetera. And if I was being completely honest, we wanted that reaction. Like, we did it as a sort of, everyone's getting a little complacent about how wonderful Canada is, and everyone's sort of erased the history, and, like, why don't we actually look at this? Like, the separatists, they had some points, and, like, let's sort of explore that. But, yeah, it's something that we don't talk a lot about anymore, because I think we definitely did not have, even though we had some Franco-Ontarians, we had more than a few of them in the production. I mean, we were 18. We had no idea what we were doing. We weren't even thinking about cultural appropriation. It was just something we did, and it felt really important at the time. There was a bunch of meetings about it, actually. I hope this is interesting to you as I tell it, but there was actually a point where we were in rehearsal, and the cast, who were prominently Queen students, so very wealthy, white, some of them were bilingual students, when they realized what we were going for, and they were told, but when they realized the lengths at which we were going, there was sort of this mass revolt within the cast, and they said, like, you know, we're not doing, like, we don't want to do this. Like, if we're in the show, people will think, or for members of this club that you've made up, people will think that we're anti-Canadian. This might hurt my chance to get into grad school. This might hurt my chance to run for office if these photos leak on the internet. That happened, this sounds like a movie, but this actually happened. And then a bunch of the senior artistic members of the team, including the director, my friend and colleague, who I still collaborate with, his name's Alex. He's a Franco-Ontarian. He gave a passionate speech in both languages saying how vital it was that this was examined and how forcing the students at Queen's University to, I mean, they probably were, but we were 18, forcing them to sort of face the reality of Canadian history, how important it was. And then the one person in the back who was sort of the largest member of the cast who didn't talk and was sort of very, you know, very sort of stoic, he got up and he's like, I say we give them a shot. And then everyone else was like, okay, yeah. But it was, there was a moment where, like, we were losing the whole thing. And then Alex gave that speech, and Simon Pabor said, I say we give them a shot, guys. And then it sort of turned around. But anyway, that was my one... French-English bilingual production in Kingston, and it's interesting. Anyway,
I think it was worth telling. Sure. And then Yam, you have another experience, I think, of would see more intercultural theater.
Yes, international.
International.
Yes, I've been lucky enough to travel to Thailand twice and create original site-specific works there. One of them was based off something I did in Kingston. I've done a show called Ambrose, about Ambrose Small, the theater tycoon, the Canadian theater tycoon. I won't get into the why this happened, but anyway, let's just say in 2018, I went to Thailand and made an immersive theater production. The premise is that Ambrose sold all his theaters in Canada, including the Grand here, and then fled to Thailand, and then you're there trying to find him. It doesn't really matter. Anyway, the second one, actually, because I was invited back, they seemed to like what we did. Was based off, there's a book called The Movie Gore by Walker Percy. It doesn't get a lot of attention in the educational system now, but it used to, and it's basically To Kill a Mockingbird, but like more adult. And I went to Thailand and I did a production there. The themes of there's a bunch of themes in the book that I thought would fit what's going on in Thailand right now that I was interested in. One of them is Walker Percy was meditating on what do you do when religion's gone? What do you fill the void with? So the protagonist of this novel is looking for meaning, looking for purpose after returning from the war. So his solution is to fill it with consumerism. Thailand, with its accelerated modernism, is like one thing that I noticed when I was there in 2018 was that it's like they haven't had as much time to build up an immunity to the disease that is capitalism. There's just rampant consumerism everywhere. They haven't like figured it out because they haven't had time, whereas we've had time to build up the immunity. So I thought it was an interesting thing to transport. So that's why I did it this year, and it went over really well. The interesting thing that might pertain to what we're talking about today is that one thing that was very important to me when I created that work was that half the cast and half the team was Thai, and half the actors were Thai, and half of the production was in Thai. The challenge of that is I don't speak a word of Thai. So it was really interesting to create that experience and also create it for three types of viewers. Anglophones, people who speak Thai, and then people who are bilingual, and constructing something that gives everyone an experience and coming up with solutions to that was quite interesting. Another thing that was kind of interesting, if I may give Kingston Theater and Canadian Theater a shot in the arm, was the philosophy that we brought to that creation process overseas, which is one that's very rooted in this community, which is, I think, respecting culture and like acknowledging those differences. Our production in 2018 was the first, I don't know how this is possible, but apparently was the first production that had both Thai and English in Thailand in the last 30 years. So something that's so baseline for us in Canada is a revolutionary force across the sea. And I thought that made me feel pretty good. You know, something that's so basic for us is, oh, that is a good idea. We should have Thai actors here. We should tell Thai stories. Is something that's very novel. So I thought that was kind of interesting. Thanks
very
for
good.
Asking.
Okay. Thank you.
Si je peux ajouter un petit peu, il y a aussi on parlait de démarches interculturelles puis multilingues. Il semble y avoir des tendances depuis quelques années, là, entre autres au Centre national des arts à Ottawa. En 2017, ils ont créé une pièce qui s'appelait Gabriel Dumont's Wild West Show. Il y avait 10 auteurs. Puis la pièce a été écrite et performée en français, en anglais, en cri, en midchief, en algonquin, en kanien heka, puis en lakota. Donc, c'est une pièce qui se passe en partie au Manitoba, en partie en Ontario, en partie au Québec. Elle a été performée à Ottawa, Québec, Montréal, Winnipeg et Saskatoon. Donc, puis je pense qu'on a tous entendu parler des exemples d'appropriation culturelle, entre autres Robert Lepage qui s'est retrouvé deux fois là, avec Slave, puis avec Kanata, avec Ariane Mouchkine en France, pris dans des situations d'appropriation culturelle où des acteurs blancs jouent des gens d'une autre ethnie. Alors ça, c'est vraiment, je pense, une réalité qui doit changer. Le Centre national des arts Ottawa, ont maintenant un théâtre français, un théâtre anglais, puis ils ont maintenant un théâtre autochtone. Je pense que c'est nouveau depuis 2 ans ou 3 ans seulement. Donc, ils ont une direction artistique pour développer du théâtre autochtone. Alors, il y a vraiment, je pense, une volonté de changer ça. Puis peut-être pour ajouter un petit peu, j'ai rencontré des acteurs francophones professionnels qui habitent à Toronto, puis qui me disaient que parce qu'ils ont un accent français lorsqu'ils parlent en anglais, ont de la misère à jouer en anglais dans les troupes professionnelles. Pourtant, c'est une réalité canadienne. Il y a des millions de Canadiens qui ont des accents, peu importe qu'ils soient un accent français ou d'une autre nationalité, mais lorsqu'ils jouent dans des pièces, on veut que tout le monde ait un accent des fois britannique. Donc ça aussi, c'est, je pense, quelque chose qu'on devrait essayer de modifier, là. Puis de s'ouvrir à ce que le théâtre reflète plus la réalité.
OK, c'est bien. Et puis, on pourra continuer à en discuter peut-être après, mais je pense que pour ce thème-là, on est parti vraiment du théâtre bilingue, de quelques expériences. pour montrer comment les choses évoluent aussi, comment maintenant on fait du théâtre non seulement bilingue, mais multilingue aussi. Et puis l'idée d'avoir des gens qui jouent dans leur langue et d'avoir une expérience théâtrale où tout n'est pas traduit, un peu ce qu'on fait ce soir, c'est aussi de permettre qu'il y ait justement d'aller à l'encontre de l'appropriation culturelle puisqu'on laisse les gens être dans leur langue et dans leur culture. Donc tout ça est tout à fait intéressant. On en arrive, mais on était déjà un petit peu là au volet éducatif, parce que justement, nos deux invités ont des expériences à ce niveau-là. Donc, Normand, tu peux nous parler de ton expérience d'enseignant, d'animateur à Marie-Rivière, de tes projets qui ont un volet éducatif.
Oui, donc j'ai enseigné le théâtre pendant 24 ans. Alors, il y avait bien sûr les cours de théâtre, et puis au cours des années, je les enseignais aux élèves de 7e année jusqu'aux élèves de 12e année. Généralement, au niveau secondaire, j'avais des élèves de 10e, 11e, 12e mélangés ensemble. Donc, c'est trois curriculums que je devais combiner. Fait que j'avais fait une programmation un petit peu sur 2 ans. Fait qu'une première année, on touchait certains des thèmes. Puis pour les élèves qui reprenaient le cours l'année d'après, bien, on touchait d'autres thèmes pour pas que ça se répète. Puis c'était plus intéressant pour moi aussi que d'avoir trois programmations un petit peu différentes, là. C'était vraiment très, très riche parce que les élèves de 12e année qui avaient pris plus d'expérience de prendre un rôle de leader pour aider plus les élèves de 10e année, donc développer leurs capacités et tout. Puis ça devenait vraiment une classe très interactive. Dans la classe de théâtre, il y avait toujours une composante création. Donc, on écrivait des textes. Il y avait toujours un élément, une unité complète où on devait soit écrire un monologue ou monter une production ensemble que la classe performait vers la fin du semestre. Puis ça, bien, c'est toujours de la création. Alors, c'était vraiment, ça changeait d'année en année selon les intérêts des élèves et puis les thèmes qu'ils voulaient travailler. En parallèle à ça, j'ai fondé la troupe Quiproquo, qui continue toujours de nos jours. Puis donc, une fois par année, on montait une production. Puis on a participé au cours des années à 2 festivals. Le festival de théâtre Sears, qui est un festival bilingue au niveau secondaire qui n'existe plus. Je pense qu'il y a une nouvelle formule. Bien, les magasins Sears ont fermé à un moment donné, là. Alors, Sears était le parrain, donc, mais je pense qu'une autre organisation a repris ce modèle-là. Donc, le Festival Sears, c'est un festival compétitif, ce que j'ai toujours trouvé bizarre au niveau du théâtre, là. J'ai de la misère à comprendre que le théâtre soit compétitif, mais enfin. Il y avait un niveau local, donc plusieurs troupes au niveau local présentaient leur production, généralement environ 10 à 15, puis il y avait un juge qui voyait chaque production, à la fin remettait des prix, puis sélectionnait 2 troupes qui allaient ensuite au niveau régional. Donc, le niveau régional, c'était assez grand. Ça partait de Peterborough, puis ça allait jusqu'à North Bay, Ottawa, puis Cornwall. Donc, là-bas, il y avait toujours 2 troupes de chaque niveau local qui allaient représenter. Donc, encore 10 ou 15 troupes qui présentaient avec un juge. Puis, après ça, les troupes étaient deux troupes par région allaient ensuite au niveau provincial. Alors, à Marie-Rivière, on s'est rendu au niveau régional à quelques reprises, puis il y a toujours des élèves qui sont mérités des prix. C'est vraiment intéressant pour les élèves, par contre, de rencontrer le juge après puis d'avoir la discussion. Les juges étant des professionnels, donc ils avaient souvent des très bons... tu sais, des choses que tu essaies d'expliquer à l'élève, puis qu'il ne comprend pas, qu'il ne comprend pas, qu'il ne comprend pas. Puis là, une autre personne lui dit, puis tout d'un coup, c'est « Ah, OK, oui! » La façon de le dire, parce que tu viens de présenter. En tout cas, donc c'était vraiment très, très nourrissant. Une des difficultés avec ça, c'est qu'au niveau local, les juges étaient presque toujours unilingues. Alors, les pièces qu'on jouait, nous, étaient en français. Donc, souvent, j'ai fait des traductions des pièces que j'ai envoyées aux juges là, pour m'assurer qu'il y ait une compréhension de ce qu'on présentait. Mais je sais que tu as assisté, toi, à quelques reprises, parce que ton garçon a joué dans la troupe. Puis c'était toujours très intéressant, là, la partie, entre autres, avec le juge, la discussion. Ensuite, on participait à un autre festival, le Festival de théâtre en milieu scolaire de Théâtre Action. Donc, ce sont des troupes qui viennent de partout en Ontario français. Puis lui n'est pas compétitif. C'est un festival participatif. Une année, c'est à Ottawa. Une année, c'est à Sudbury. Donc, avec les deux universités qui ont des départements de théâtre en français. Chacun des élèves pouvait participer à 9 heures des ateliers, 9 heures de théâtre. Alors ça, c'était vraiment intéressant. Puis on voyait plusieurs des pièces qui étaient présentées. Et nous, on présentait aussi. Puis encore une fois, il y avait un professionnel qui donnait une rétroaction. Alors, pour les élèves, c'est vraiment une expérience très, très riche. Surtout ceux qui ont fait partie de la troupe de la 9e année à la 12e année, ils avaient vraiment la chance de voir une variété de styles, de faire plusieurs ateliers, de rencontrer des professionnels, des jeunes d'autres troupes, là. Donc, une très belle expérience. J'ai aussi travaillé avec la troupe communautaire, les Tréteaux de Kingston. On pourrait parler d'éducation parce qu'on a aussi fait des ateliers dans cette troupe-là. Le principe, on ne passe pas d'audition, mais tous les gens qui ont le goût de jouer, on demande aux gens, ben, t'es disponible pour un grand rôle, pour un moyen rôle, un petit rôle. Puis on trouve une pièce pour jouer avec les gens qui sont intéressés. Puis on prend les gens où est-ce qu'ils sont rendus, puis on les amène un peu plus loin. Puis ceux qui sont rendus plus loin, bon, on les amène un peu plus loin. Puis on travaille beaucoup en collaboration. On participe aussi à des événements avec Théâtre Action, où il y a souvent de la formation, des ateliers. Donc, il y a un happening communautaire à tous les 2 ans qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut être de l'écriture, ça peut être du jeu. Cette année, c'était des ateliers de clowns. Théâtre Action organise aussi, actuellement, je participe à un projet d'écriture. On est 10 auteurs de l'Ontario français. Il y en a de Cornwall, on est 3 de Kingston. Il y en a 2 de Toronto, 1 de Windsor, 1 d'Ottawa, puis 1 de Sudbury. Puis on s'est rencontrés en juin, 3 jours à Ottawa pour écrire. On s'est rencontrés en octobre, 3 jours à Kingston pour continuer d'écrire puis regarder ce qu'on avait commencé. Puis là, on va se voir le week-end prochain à Toronto pendant 3 jours. Pour peaufiner un petit peu tout ça. Puis ce texte-là va être mis en lecture en septembre 2020 par Théâtre Action. Ils ont à tous les 2 ans un atelier, un événement de mise en lecture qui s'appelle Feuilles vives. Cette année, il va y avoir 7 textes professionnels qui vont être mis en lecture. Puis il y aura aussi donc ce texte communautaire qui s'appelle le Musée imaginaire de l'Ontario français. Alors, en septembre 2020, joignez-vous à nous à Ottawa pour pouvoir entendre ce que ça va donner. Voilà.
Alors, on se demande si vraiment tu es à la retraite, Normand.
Bien, la retraite, c'est samedi tous les jours. Samedi, oui, oui. De faire ça, samedi de faire ça, c'est ça.
OK, so, Liam, I would also like you to talk about the educational aspect of your theatrical experience. And this is something I discovered with you, immersive theater, when we talked before to prepare this talk, and it's very interesting, and it happened that you've been doing that in schools in at least one time, or in Kingston, but you've been doing immersive theater, as you said, in Thailand as well, but would like you to talk about that experience.
Oh, thank you. Thank you for the opportunity. I hope you all find it interesting. I have been doing immersive theater since 2003, but my first instance doing it, and I've taught workshops about that. As a producer, the Kick and Push Festival co-produces theater camps with Theater Kingston, and we've been doing that for the last 5 years. So I've had that element. I also teach a workshop on immersive theater for teacher candidates at Queen's University. I've done that for the last 3 years because it's a really fun type of theater that kids really respond to. But in terms of creating work for students to participate in their classrooms, the first instance of that I did was in England, actually. There's an English company called Punch Drunk. They're the company that produces Sleep No More in New York. It is the biggest, longest-running English immersive theater installation. That it's been going for over 10 years now. They just keep extending it. And they have an education wing called Punch Drunk Enrichment. So I went to Ashford, Kent. I went into a school with like adorable little British school children, and we created a play in the school for them, an immersive experience. So I learned that, and then I came back to Kingston, and then I started the search to find a willing school and funding. So I could do that here because this is our hometown and we wanted to do it in Kingston. We love Kingston. We wanted that type of innovative theatrical programming to happen in Canada first in Kingston by Kingston artists. That's what we wanted. So we started the search. And I found some great allies at the City of Kingston Cultural Services. And I found a great school who I'm not going to mention. And I found an amazing principal who I'm also not going to name for reasons that will be clear. And we did it. And it was fantastic. And the reason why I think this type of work is so important I'll speak emotionally first, not intellectually or artistically. Emotionally, if I, as someone in grade 3, encountered this, it would be my favorite thing of all time. Like I would have, I just the way that children engage with art, engage with imagination, engage with make-believe is incredible. And to be an immersive theater creator that's creating for that audience is a gift, because you really feel like they're going to remember this forever. And hopefully we've encouraged their imaginations, which are already so active, we've encouraged them even more. Like, we've taken a bonfire and turned it into an inferno. And I think that as a theater creator, even when I create immersive theater for adult audiences, I'm always trying to, I think, if I was honest with myself, which I try to always be, I'm always trying to get audiences or participants to view the world with that sense of awe that we lose when we get older. Like, anything's possible. A dragon can pop out of that cupboard. You can be the hero of the story. Like, keeping that window open is something I'm doing. I've been striving to do my entire career for adults. So when you start doing that for children, it's a whole new ballgame. So that's good. Another reason why I like doing site-specific work in schools is that children love their school. Children know their school. They know every ounce of their school. They know all the people in it. They know where all the candy is. They know what doors are locked. They know if the clock's in the wrong place. They know the school. So, and they're very intelligent. So it's actually in some ways more challenging to create site-specific work there, because the kids are paying attention. If something's out of place or someone's not there or there's a new person, everyone in the school is onto that immediately. So that means when you're baking in the narrative, you have to start weeks in advance, and you have to just put it in a little bit at a time, because they notice everything. The last reason, which is a bit more intellectual, I think, is that the utility of immersive theater to recontextualize a school for children, not just for the ones that love it, but for the ones who don't love it, and make it a magical place, and make it a wondrous place, and give them a chance to use what they're learning in school in a way that's outside the desk, outside of paper and pen. Like, it's a really great opportunity for children and humans that express themselves in a tactile fashion or through movement. Theater can catch that in a way that conventional educational practice can't. So creating a magical happening where the skills they're learning in school can be applied in a different way, and they're one of the things about the work that I do in immersive theater is that the audience is in the story. It's not something that happens around you. You are the story, and you're the hero. And the story progresses because of skills that you have and things that you do. Putting the children front and center into something where they control that narrative is absolutely amazing. Like, it shows to them in their own school, in the classroom that they learned about. I'm not going to name a topic because I don't want to give the school away. It's so rewarding. So we did that, and the reason why I'm not naming anything is the interesting thing and possibly controversial aspect of this work that we're pursuing right now, and we're thinking a lot about it, and people that I respect a great deal are very critical of us, is that we never give the game away. Like, we never ever admit that we're a theater company, and, you know, there are no elephants, and, like, we never ever ever break character. Like, the game has never gone away, we never publicized it. It's this thing happened and poof, we're gone. And anyway, so that's a core of the work, and we can get into that if people are interested in. But I have very intelligent friends who have PhDs in education who have a huge issue with that. But I've almost the same amount of friends who totally agree with us. So it's an interesting bone of contention. There was a conference in Vancouver, which I couldn't attend because I was too busy, to be honest, where this work was discussed amongst academics, and apparently it got quite heated. So it's interesting. It's nice when academics notice what work you're doing and have strong opinions about it, even good or bad. So
that's great. Mm-hmm. It's fascinating. Okay, so now we have a third part of our talk, and then the audience can ask questions, and I'm sure there's lots of questions. So the last part is about production. So, Normand, tu en as parlé un tout petit peu, je crois, mais de parler un petit peu plus de ton implication avec le Centre culturel Frontenac, ton rôle de producteur, ce serait plutôt diffuseur dans ton cas, de travailler au niveau de la diffusion. Tu viens de participer à Contact Ontarois, donc j'ai dit à Normand qu'il n'allait pas révéler des secrets sur la programmation du Centre culturel, mais il va peut-être nous dire un petit quelque chose, non? Peut-être.
Oui, je vais pouvoir, oui.
Donc, parler de ça, de cet aspect de ton travail qui est relié au théâtre aussi.
Oui, donc, c'est depuis que j'ai pris ma retraite, je suis animateur pour le projet Connexion Théâtre Danse. Comme je vous ai dit, c'est une subvention qui vient du Conseil des arts de l'Ontario et de Réseau Ontario. Puis le but, c'est de faire du développement d'auditoire pour les troupes de théâtre franco-ontarienne. Il y en a quelques-unes établies à Ottawa, une à Sudbury, puis une à Toronto. Puis qui font du théâtre de création vraiment intéressant, mais lorsqu'ils font de la tournée, il n'y a pas de vedette. Alors, lorsqu'ils arrivent à Kingston, en français, puis tu dis, bien, la troupe du théâtre Trillium vient présenter une pièce. Tout le monde dit, bien, OK, puis c'est qui? Puis qui est-ce qui est dedans? Donc, personne ne connaît. Donc, il faut vraiment faire une promotion. Puis l'autre aspect, c'est pour les spectacles de danse. C'est un peu la même chose. C'est vraiment un public un peu plus intéressé, justement, pour la danse. Donc, de créer des opportunités au sein de la communauté pour promouvoir ces pièces-là. Alors, selon les pièces, ce rôle change beaucoup. Je peux vous parler, par exemple, d'une pièce que j'ai beaucoup aimée qui s'appelait « Fucking Carl ». Alors, c'est dur de vendre une pièce qui s'appelle « Fucking Carl » parce que tout le monde dit « OK, ça va être, c'est le titre de la pièce, là, puis ça va être, tout le monde dit « ça va être très vulgaire, etc. » C'était très vulgaire. C'est l'histoire d'un couple white trash qui veulent adopter un enfant. Puis ils commencent, ils sont devant un comité d'adoption, puis ils veulent... Moi, j'avais lu le texte, j'avais fait partie d'un jury de sélection pour une mise en lecture. Puis en lisant le texte, au début, je me disais « Oh! » Puis plus ça avançait, plus j'étais captivé. Puis à la fin, j'étais vraiment pris dans l'histoire au niveau émotif et tout. Ensuite, j'ai vu une mise en lecture. Puis la pièce était écrite par un homme et une femme. L'homme a écrit le rôle de la femme et la femme a écrit le rôle de l'homme. Puis les auteurs performaient la pièce. Donc, le gars jouait la fille, puis l'autrice jouait le garçon. Alors, j'avais vu une mise en lecture où c'était un homme qui lisait le rôle du gars, puis une fille qui lisait le rôle de la femme. C'était intéressant, c'était plus dramatique. Ensuite, j'allais la voir lorsqu'elle a été montée à Ottawa. Puis c'était vraiment charmant. Puis encore là, je suis retombé sous le charme. Puis on a décidé de la faire venir au Centre Frontenac. Dans cette pièce-là, ils vont voir beaucoup de festivals qu'ils appellent des festivals, parce que c'est un couple white trash. Alors, ils parlent mal. Puis ils adorent aller dans les festivals. Fait que dans le foyer du Centre Frontenac, on a créé un festival. Donc, il y avait des jeux que les gens pouvaient faire avant que la pièce commence. Puis ils mangent des Pop-Tarts beaucoup dans la pièce. Donc, on servait des Pop-Tarts dans le foyer. Puis les gens qui avaient participé, qui avaient fait tous les jeux dans le foyer, on a fait un tirage à la fin, puis ils ont gagné deux boîtes de Pop-Tarts, là. Donc, tu sais, c'est concept, là. C'est de développer vraiment une expérience qui peut être le fun, qui peut être plaisante. Puis je suis allé faire des ateliers dans les écoles secondaires. Je suis allé rencontrer des gens du Club Optimiste à l'époque, des groupes de lecture. Puis on a lu des extraits de la pièce. Au début, bien, tout le monde est... Alors, il sacre à toutes les phrases. Hein. C'est, bien, elle était crissement belle, puis, ouais, mais, tu sais, c'est tout le temps comme ça. Alors, des crises de tabarnak, des calices, tout le long. Au début, c'est vraiment gênant, puis à un moment donné, on ne l'entend plus. Puis de le faire lire aux gens, puis leur dire, bien, écoutez, parce que tu veux pas que les gens commencent à voir la pièce, puis au bout de 2 minutes, c'est trop vulgaire, et ils sortent. Donc, on les prévient. Puis ça a vraiment très, très bien marché. Je pense que c'était un de nos bons succès. Un autre exemple d'une pièce qui était dure à vendre, qui était présentée l'an passé au printemps, qui s'appelait MILF, Mothers I'd Like to Fuck, qui est présentée actuellement à Montréal. C'est une pièce qui tourne depuis peut-être 3 ans maintenant. Elle a été présentée à Québec, elle a été créée à Ottawa, présentée à Québec, elle a tourné à Montréal, elle a fait une petite tournée en Ontario, dont Kingston, puis là, ils sont de retour à Montréal encore cet hiver. On a travaillé avec le département de Gender Studies à Queens. Les filles qui travaillent au Centre Frontenac ont fait des vidéos. C'est une pièce qui parlait de la maternité, de la pornographie, de la féminité, puis d'être mère. Donc, ils ont rencontré 5 femmes, puis ils ont fait 5 vidéos qu'on a diffusées sur nos réseaux sociaux, donc des femmes qui parlaient de leur expérience. C'est une pièce qui est vraiment en choc. L'auteur est aussi allé rencontrer des gens au département de théâtre l'année passée parce qu'on présentait avec les surtitres en anglais, donc des gens sont venus le voir le soir. Je suis allé rencontrer des jeunes dans les écoles secondaires en avertissant à l'avance la direction, disant que c'est une pièce où il y avait de la nudité, qu'on allait y parler de pornographie, etc., tout ça. Puis, les enseignants sont assurés d'avoir la permission des parents, mais les 2 classes de théâtre les plus vieux, là, les élèves de 11 et 12e année, sont venus voir la pièce. Il y a eu une excellente discussion après. Donc, ça peut prendre vraiment des formes très, très, très variées. Puis ça, je trouve ça vraiment stimulant. Plus au niveau de la diffusion, le centre, c'est un centre pluridisciplinaire qui offre de 10 à 14 spectacles, dépendamment des années. On a quelques partenariats, entre autres avec l'ACFOMI, avec les Tréteaux de Kingston, avec le Skeleton Park Festival. Il y a toujours un des spectacles qui est une troupe francophone. le Kingston Multicultural Arts Festival. En septembre, il y a toujours aussi un spectacle d'une troupe francophone avec les conseils scolaires où on a des spectacles jeunesse qui sont montés. Donc, à chaque année, on va assister à Contact Ontarois. Ça dure 5 jours. J'y étais la semaine passée, de mardi jusqu'à samedi. Puis, c'est le marché du spectacle de l'Ontario français. Au cours de la semaine, on a vu 50 vitrines. Une vitrine, il y en a qui durent 30 minutes. Donc, on voit 20 minutes un extrait. Ça peut être de la musique, ça peut être du théâtre. Puis, 10 minutes de discussion. Il y avait des vitrines éclairs, où là, il y en avait 10 vitrines éclairs de 10 minutes. Donc, les gens ont 10 minutes pour vendre leur spectacle. Puis, je dois dire que parmi ceux qui nous intéressent le plus pour l'an prochain, il y en a deux qui faisaient partie de cette vitrine-là. Donc, en 10 minutes, ont vraiment réussi à vendre leur spectacle. Il y a d'autres vitrines où c'est un échange. Il y a une grande salle où toutes les compagnies sont là, puis on circule. Donc, les compagnies avaient... Et nous, on avait choisi... On avait 7 rencontres de 7 minutes. Donc, il y en a que c'est les compagnies qui avaient choisi de nous rencontrer. Des fois, c'est nous qui avions choisi, puis des fois, c'était au hasard. Donc, tu vas t'asseoir avec quelqu'un, tu as 7 minutes. Tu as 2 minutes pour changer de place, 7 minutes pour parler. Puis finalement, en fin de soirée, il y avait un bar, la Bastringue, puis à chaque soir, il y a un groupe qui présente un 20 minutes. Donc, en tout, on voyait 50 vitrines. Alors, c'est vraiment beaucoup durant le... assez intense. Puis là, bien, dans les mois qui viennent, le mois de février et mars, on va s'asseoir, puis on va pouvoir programmer ces spectacles-là pour l'an prochain. Je peux vous dire déjà qu'il y en a un. À chaque année, le Réseau Ontario, donc tous les centres culturels francophones, se mettent ensemble puis choisissent un spectacle qui va venir faire la tournée. Cette année, celui qui avait été choisi l'an dernier, c'est Jack, qui va être présenté au mois de mars. Puis l'an prochain, c'est une pièce qui est présentée, ça s'appelle Vache au pluriel, Vache le musical. OK, donc Cows the Musical. Ça se passe à Castleman, en Ontario. Puis c'est, alors au début, on ne savait pas à quoi s'attendre. S'il y en a qui connaissent Improtéine, il y a deux des membres d'Improtéine qui sont les auteurs. Puis ils sont cinq comédiens. Il y avait seulement 3 portes, une série de costumes, des changements, mais c'était vraiment enlevé. La musique était super. La musique est écrite par Brian Saint-Pierre, qui a fait la musique pour L'écho d'un peuple. Là, c'est une référence pour certains. Donc, en tout cas, c'était vraiment savoureux, c'était drôle, c'était captivant. Ça se passe durant la tempête de verglas de 1998. Là. Donc, puis ça parle un petit peu des thèmes, l'exode rural, est-ce que les jeunes doivent quitter la campagne et tout. On a vu 20 minutes. C'est un spectacle qui est en création, donc le reste est encore à créer, mais ça promet énormément. En tout cas, donc l'an prochain, je vous inviterai à venir voir Vache le musical. Puis selon ce qu'on sait, date, ça devrait être au mois de mars ou avril. Là. Voilà.
Donc, je dis ça un peu en blaguant, qui allait peut-être nous révéler quelque chose, mais en fait, tu en as révélé plus.
Oui, je peux. Non, ça a été
accepté.
C'est sorti en communiqué de presse déjà. Là.
OK, ouais, OK, ouais, bien. Ouais. Alors, OK. OK, so I think that will be the last question for you, Liam, and then we can have the audience asking questions. So I think what, if you can talk about. What you've done with the festival, now I kind of forgot.
Kick and Push.
Kick and Push, mm-hmm. Okay. And even if you have other things, because mm-hmm. you might have other experience of production, but specifically on that one.
Excellent. Okay. Well, the Kick and Push started, I guess we just had our 5th year. We started in 2015, and that was, when it started, it was an amalgamation of individuals. We produced something at this very building that we're standing in called the Library Chronicles, I think in 2012, which was 4 shows that happened all over the library. You're noticing a theme here. So anyway, happened all over the library. And then from that, there was sort of a lot of discussion, a lot of talk about, you know, how can we get the theater companies in Kingston together to do things together? How can we stop replicating replicating services and initiatives and, like, focus on the art? And when there was sort of a cry from the powers that be of the city of Kingston to animate the Grand Theater again in the summer, because it used to be animated all the time and then it sort of went quiet, we saw the opening to program it with Innovative Theater. That was 2015. What was interesting at that point was the festival was of the model where the festival provide a venue and advertising, but it was sort of the companies sort of producing within that framework. And that was the tone for the 2nd year. Now in the 3rd year, when my amazing co-founders sort of went off to do other things and I was one of the people left standing in the room, I thought For the festival, it would be a better move to try to compensate artists with a living wage and generate enough revenue for the festival that the artists aren't taking the financial risk we are, and they're getting paid enough to like feed their kids and pay their rent. I think that's very important. So we switched to that model, and that year in 2017, we did pay all the artists equity. We paid them a living wage, which we were very proud of. We paid our student workers a living wage, we're very proud of. We ourselves weren't getting paid at that point, but the artists were, which is very important, and the staff were. We started to be able to pay the administrators and a living wage in 2018, which was really exciting. And then in 2019 was the last year everyone was getting paid enough to live on, which was really exciting. In terms of programming, last year was 2019 was a very big year in a bunch of ways. But one of them that I was really excited about, with the support of various organizations in the city, including Aquami and the cultural, this is when I reveal that my French is terrible.
Centre culturel.
Thank you. I mean, it's terrible. It's very, very terrible. Who, coincidentally enough, I actually met. I sort of connected with them after a referral. We brought some Francophone programming into the Kick and Push, which we were very, very excited about. We presented Kitchen Chicken, and it was the headliner of the festival. And when I saw it, I was lucky enough to see it at the Theater Center in Toronto, and it like blew me away. So to be able to bring that level of programming to Kingston was a real treat. So that was very exciting. It's something we're looking about.
I saw that production, and Catherine invited me, actually. It was amazing. I've never seen anything like it.
Yes.
It's hard to explain, but there was music. They cooked chicken. They served the chicken to the crowd. It was unreal. It was
And I find the reaction to that show is production is one of two. Most people love it, but there was actually a few people, which surprised me, who were like, well, I mean, it was kind of silly.
Yeah.
Of course it was silly. That was the whole point of the, of course it was silly. But I guess maybe if you came into the theater expecting like a linear narrative and like plot, you'd be disappointed. But it was so joyous, so unapologetically joyous. No matter who you are, no matter how old you are, no matter what language you speak, I thought it was, and it was, would you agree, it was, I think it hits the innovation button, like I've never seen anything like it. It was a real joy. So
I would love to see it again another time, because having seen it once, and you'd be expecting to see it, was just, all through the show, he kept saying, it was just, and it's hard to explain.
I got an email from them a month ago, and they're like, we want to come back to Kingston, just like, let us know. And so they'll be, if I have my druthers, they'll be back.
Oh, nice.
But anyway, that was really exciting.
Okay, so we've been talking about very good theater, very interesting stuff, and things to look forward to as well, kind of production. And so this is great. So we're kind of a 1 hour of talk. Like, it's kind of a... I didn't realize that was... we talk a lot. So this is good. But I think now it's time for the audience to ask questions. And I'm going to go around with the microphone. So don't be intimidated by that. Okay. So any question for in French, in English, or other languages? Yes.
What is immersive theater?
Oh, I probably should have mentioned that. That would have probably been something to lead with. Immersive theater, the term keeps evolving, but it's basically... most of the time when people think about theater, they think of the Prosarch, they think of the frame, and the action happens, maybe it creeps, but it happens on the frame and you watch it and that's it. Immersive theater is, you're in it and it's around you. Like, it's happening all around you all the time, is the sort of the short answer. May I?
Yeah. Well, I was just going to say also, I think that in immersive theater, the... where you are becomes necessary to the storytelling. So, for example, Kick and Push did a show on the island this summer about a couple who was told by their therapist they needed to go into nature in order to make the relationship better, so that the immersive part of it became part of the character or the story. That's fine.
Yes. Yeah, and I would agree. I mean, I think, if I may, I know her. I think if I... And she's incredible, and she worked very hard to bring the Kick and Push this summer. So anyway, but I'm glad you're here. The theater happens in the empty space usually. Like there's a big blank box, and then we fill it with things, which is great. The trick of immersive theater and site-specific theater is you have to acknowledge where you are. Like you can't fight against the environment. You have to embrace it. And typically in my experience as a producer, but also an artist, the more the storytelling is fueled by the locale, the better the production is. If you try to hide the fact that you're in a zoo, it's not going to work. You know, yeah, basically.
Yes, and maybe you can introduce yourself.
It looks
like you had part of, yeah, no?
I did a general manager for last summer for that. But Normand, I am not a French speaker, and I can tell by how much you spoke that you're so involved in many areas of work. It sounds like you're doing dance work too. I'm a real theater person, and I'm trying to get a sense of what the core of your work is.
Okay,
I'm so sorry.
Since I retired, since I retired, I've been working for Centre Culturel Frontenac. Yes. It's a grant through the Ontario Art Council and Réseau Ontario, a network of French cultural centers. Yes. And the aim is to develop audiences for plays and dance shows, and for Franco-Ontarian professional theater companies and Franco-Ontarian professional dance companies, so that tour and come to our center.
So you're bringing...
Yeah, and so doing cultural mediation, so meeting groups and doing workshops, talking about the themes of the play or the issues, and doing different before the play arrives. So when the play is there, then people already have an idea what it's about, some of the thematics. And after a plays and dance performance, there's always a talk back with some of the actors, sometimes the playwright, whichever. And it puts everything into context and becomes more of an experience. You just don't go see the play, then go back home and that's it. You come, you're immersed. And sometimes in the foyer of the theater, we'll try to have something that's linked again, to create the thematic and bring it, make it an experience.
Are you focusing on francophone audiences?
Yes, yeah, it's specifically, yeah.
Mm-hmm.
Well, do come because, okay, so something something I explain is that for those shows, we have surtitles. So we lower a little screen on top of the stage, and we have subtitles. So the text, if the play's in French, the text is in English. It's like when you go see a subtitle movie. So it's odd for about 5 or 10 minutes because you're reading and watching, but as the play progresses, you just catch on. It's really interesting, actually.
Mm-hmm. It's good that, you know, if you have question in another language, that don't mm-hmm. you know, don't be shy yeah. to ask it, because we could not have repeated everything, mm-hmm. but mm-hmm. totally okay. Yeah. Okay, so.
Hello, this question is for Liam. You're very mysterious about the school project that you've done, and I am a teacher, and I would love for my students to have the best experience that they'd never forget, like you were talking about. So do you work with schools a lot, or was this just a pilot project? Or
It was a pilot project, and we're looking, but we want to do more of this work. Every single member of our team that was involved, like I get emails. Like everyone's chomping at the bit, and we're looking for more schools to partner with. The school that's farthest ahead right now, the one that's really is actually not in Kingston. The educational staff, someone at the school told someone else who told someone else, and this school in a city just north of Toronto has been like calling, which is, what a great problem to have. But we're always looking, so if you are interested, I'd love to talk to you more about it.
And how do we get in contact with you?
The easiest way is probably just liam@singlethread.ca. Yeah, that's really exciting.
Okay, good. We have another question? Okay, we'll go here first.
So my question is about the future of both English theater and French theater in Kingston. What gives me cause for despair is what some people call cocooning, the home theater, the refusal of some people to simply leave their homes. They stay home. They don't go out. What gives me optimism is something you said about the magic of the child's imagination. I met a teacher last summer who was a substitute teacher, and most kids eat them alive. And she was afraid of being eaten alive, but she happened to bring with her that day to school a puppet, a lion. And when the class was on the verge of being out of control, she took the puppet and began to engage the puppet in conversation, and they were transformed. So my question, I guess, is can that magic of live performance endure? Will people leave their homes to see French or English theater in this community going forward?
Je pense que oui, parce que le théâtre, c'est vraiment différent de la télévision ou du cinéma. Il y a quelque chose, il y a d'immédiat qui se passe. D'ailleurs, on ne peut pas filmer le théâtre. Du théâtre filmé, c'est pourri. Il faut vraiment être là, il faut vraiment le vivre. Il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est sûr qu'il faut amener les gens, une première fois, à vivre l'expérience. Mais c'est là, je pense, où il faut que les théâtres fassent de la médiation culturelle. Aillent rencontrer le public, aillent faire la promotion, que ce soit par les médias sociaux, que ce soit par différentes interventions pour amener les gens, puis leur faire vivre une expérience extraordinaire. Mais je pense pas que ça va mourir, je crois pas.
Yeah, just translate that a little bit in English, what you're saying, Norma. So the idea would be, so your question was about, you know, the threat is people don't want to leave their house. And Norma is saying that that's the kind of work you're doing with mediation, that you actually have to make it interesting for people, engage them before, and then they will come to the theater. So it's kind of that step that will help. So these experiences will actually help to build an audience. I like that. Same thing with actually school. Kind of, I'm a professor at Queen's. I'm teaching theater, but in a French study, so not drama really. But I'm trying also having in mind that I would like my students to go to theater as well. And when I ask them the question at the beginning, you know, how many, what are the last plays you've seen? And I'll look at them and they don't know. Like many of them would not have seen or could not remember I've seen a play. So it's kind of bringing them. So there's hope, for sure. Okay.
Can I hear from you?
Yeah.
Oh, that's a big question. I have hope. The strategy, because, I mean, theater, we survived radio, we survived television, we survived cinema, we'll survive this. I think the tactics that we have to use to get, I'm taking off my artist hat and putting on my producer hat. The tactics we have to change, I think. In my experience, my non-theater peers, who are the litmus test for me, like people who don't care about theater, people who haven't been bitten by the bug and don't care, can I get them to plays? Because I know I've got theater people because I am one, but can I get them? And strategies, there's a lever that I'm trying to use, and I think it's working, is we can't compete with Netflix, but we shouldn't be trying to. I think it's hilarious that theater almost feels counterculture now because I'm asking you not to watch a screen, and I'm asking you to put your phone down. So I feel like we leverage that, and we make theater, we play up the biofeedback aspect of the live performance, and one of the many things that's great about theater is the fact that it's a communal art form, not just it's created en masse, but that performance only exists in that instance with that audience, that feedback, which they haven't gotten the technology, the things we're competing against aren't there yet. So right now, we push that, we do the educational outreach, the contextualization, we don't get them to come to the theater, we take the theater to them, like it's in a bus, it's in the library, like we bring it to them, and I think theater will survive. The other thing I would like to see happen in Kingston specifically, and I think it is happening because of some people in this room, is there's a lot of theater fans, but there's not that many of us. We need to make sure we're not cocooning within the scene itself. We need to cross-market. We need to have podcasts like this. We need to like bring everyone together. Because when we go into our silos, which I've been told is a Kingston word, we wither. So, but I am optimistic because that community building is happening. Oh, well, thank you. Thank you. Thank you. But I think it's happening, and I'm optimistic. We sell, last thought, theater is such a great experience, and in a lot of the work that I'm doing, I'm trying to sell the experience. Unfortunately, somehow, something went wrong, and theater is a bad word. Theater's amazing. We just have to get people there, and they're not, and I think sometimes myself, I sometimes use theater, I'm like, it's theater, and I think that means it's great, but there are people that are close to me that I love who, as soon as they see theater, they're like, it's for a bunch of lefty, intellectual, academic, tree hugger, environmental. No, and I'm part of me is like, yeah, yeah, but the, but no, it's for everyone. So I try to sell. It's an experience, and we're not going to preach at you. We're going to ask you some questions, and maybe you'll be challenged. But in a world of, and sorry to go there, but in a world of echo chambers that exists, you make your own little, you know, Facebook. In that world, like, theater is going to challenge you. You might not agree with it. You should come. Like, I think we've got a role to play, and it's important, and it's valid, and I think people are hungry for it, so I'm optimistic. But we have to keep discussing and keep bringing everyone together, even if they don't agree.
I would like that as the last word, but there might be other questions. So I'm going to ask you if you have other questions. That's a time where kind of a... No? No? Because I said it could be the last word, but, you know, someone else can have the last word, too. You have something? Yeah? En français?
Bonsoir, merci pour cette belle présentation. J'aimerais savoir un peu ce que vous pensez du recrutement au sujet du théâtre, parce que dans le cas des francophones, ben, le bassin de population est beaucoup plus petit. Alors, j'aimerais savoir quelle stratégie ou... quel mot vous auriez à partager au sujet du recrutement. So my question for Norma has to do with recruiting new members to a theater group, and I'd like to hear from you as well about that. In the French community, it's a bit of a challenge, I guess, because of the small pool of population, but I'd also like to hear your thoughts about how you get new theater players and how young you try to go through the ranks and recruit some new actors. That's it.
Ben c'est un défi, c'est certain. La communauté est petite, puis il y a beaucoup de roulement dans la communauté francophone aussi. Donc, des gens sont ici souvent pour 4 ans, 5 ans, puis déménagent ailleurs. Donc, des gens qui sont impliqués dans la troupe s'en vont. Il faut recommencer constamment. Des choses qui semblent relativement bien fonctionner, bien, c'est de trouver les mordus. Donc, on a un peu un noyau là, de gens qui sont un peu plus impliqués. Après ça, eux impliquent leurs amis, leurs connaissances. Donc, c'est un peu le bouche à oreille qui semble bien fonctionner. Je vais aussi dans les écoles, alors avec les écoles secondaires, l'école publique et l'école catholique francophone. Donc, il y a des classes de théâtre dans chacune des deux écoles. Alors, aller rencontrer les enseignants et les élèves là-bas. Puis, dans nos productions, on essaie généralement d'impliquer des élèves aussi. Alors, eux aussi sont là pour un an, deux ans, puis après ça, déménagent, s'en vont au collège ou à l'université, donc on les perd. Fait que c'est un... Je sais pas, c'est constant. Il faut continuellement le faire et le refaire. Puis la façon dont on fonctionne, on ne choisit pas une pièce, puis là, bon, OK, on va trouver les acteurs. On demande qui est-ce qui est disponible. Je lis plusieurs textes, j'ai plusieurs textes en tête, plusieurs possibilités, ou des gens m'en suggèrent, en amènent. Puis là, on regarde selon la disponibilité des gens. Alors, depuis quelques années, on fait beaucoup de pièces à numéros. Ça permet, parce que tout le monde est très occupé, donc si quelqu'un a seulement une soirée par semaine, bien, ils vont jouer seulement dans une scène ou dans un des numéros. Donc, en tout cas, ça complique un petit peu des fois pour le choix des textes, mais c'est la réalité, je pense, avec laquelle on doit composer, là.
Can I ask a summary of what you said, just so I'm not...
Yeah, okay. It's very difficult in the French community because it's a small community and there's... every 4 or 5 years, a lot of people move. Either they're linked with a military base or going on with their career, going somewhere else. So we constantly have to recruit new people in the theater company. And but what we try to do is we have a small group of people who have been there for a long time or are very involved or very interested. So they bring their friends, they bring talk in their different environments, and we try to have people... say that we're going to do a production. If anybody's interested, please come to the meeting. And then also we work with both the French high schools, the public and the Catholic. I meet with the teachers who teach drama and their students, and every year we try to implicate some of them in our productions. And usually they're there for 2 years, 3 years maybe, and we have to bring new students But we can't. Every time we've tried to pick a play and then try to find actors, it never works. Because people said in the spring, yes, in fall I'll be free, but then in fall they're taking a course and they can't anymore. So the way we work, we meet at the end of summer, usually at the end of August, and okay, who is interested? Who has how much time to do a large part, a medium part, a small part? We'll be working about 8 weeks. The performance at, let's say, early November. And then I have different plays in mind, so we do the casting and then we bring the play. But in the last few years, what seems to have worked quite well is the productions we've done, our plays, the pièces à numéro, not quite sketch. Sketch, I don't know.
Cabaret, like.
The plays that are written in that form.
Yes.
Sketch sometimes I find is pejorative.
Mm-hmm, yes.
Because some of the plays are very strong plays, but they're written with. Anyway, so.
Like Howard Barker, really tight, 15 minutes, they can go in any order, but it's all, I think I know the type of work.
Yeah, so something like that. Yeah. And then this way, if somebody's only available one evening a week, then mm-hmm. they can be in one scene only. And yeah. If somebody has more time, they can be in two or three scenes. And so that's been working well for the last few years, but it's getting complicated finding new plays or different, sometimes I have to do collage or different, mm-hmm. or one-act plays, as you said. But that's the reality of the community.
I would say similar, in my experience, we suffer a brain drain where people come to go to Queens is a huge, like, thank goodness Queens is here, but then people get out of Queens, they finish, and then maybe they hang out for 6 months and they go, which is good for them, but, you know, maybe not necessarily the best for us. I would say, so there's a bunch of different approaches we take. One approach that we took last summer, I'm speaking with my Kick and Push hat on, someone's voice you heard tonight was very much behind this initiative. I would have to give that individual credit, but moving on, was we really stepped up, she really stepped up our volunteer program this year and got people from the International School of English to come and volunteer in the Kick and Push. So we had people who weren't Anglophone or Francophone who were present at the festival seeing the experience, and then people saw them. So that was a huge thing, just getting people involved in theater that aren't necessarily theater artists, don't want to create, but they're there. They're part of the family and we're inviting them in. So that was huge. And that kind of figuring out how to contextualize people that aren't theater creators or necessarily theater audiences, but getting them involved, getting them part of the family. I mean, the NHL doesn't exist because we all play hockey, right? There's a whole bunch of people that love the sport, even though they don't produce or play, but they like to watch. So that approach is key. The other thing that I've been very focused on, I'm lucky because I'm lucky in so many ways, but I'm lucky when it comes to that recruitment. There are a lot of Anglophone theater companies in town, and there's a few that specialize in youth. So like Blue Canoe is out fighting the good fight, finding 14-year-olds, putting them in plays, and like they do great work. So I'm lucky in that way. I think there's a few Anglophone theater companies in this town doing a lot of work. What I'm trying, if I may, what I'm interested in developing in the ecosystem is those people that walk out of Queens or what have you, I want to give them a reason to stay. And one of the things that I feel isn't quite where it needs to be yet is paying artists a living wage to do their professional theater work right here. I mean, there's so much great theater stuff that comes in, we pay them and they leave again, and that's great. More of that, but also if you live in Kingston, wouldn't it be great if people could make a living doing theater in this city? The people that make the unofficial count, but the people I know that make a living that aren't affiliated with Queens, who are like thank goodness we have all of them, but they're not affiliated with the university at all. They're professional theater artists, Anglophone theater artists in the city. There are one, maybe two. And I'm not counting myself because I do other things to pay my rent. So that's a problem. And it's not to discount. It's not to say professional theater, which is defined by not quality, but paying people. That's what that means. It's a forest. And you need there's many layers, and you need a healthy ecosystem. One of them that's missing is that top layer. We need to give people a reason to stay. So that's why so paying people at the Kick and Push to do their work, paying artists not only to come here and do the work, but encouraging them to come here and build work, is something I'm really passionate about, because I think it's that next level. We need to give, you did a great production as a student, you just graduated from Queens, you want to do theater, and you want to do theater as a hobby on the weekends? Well, we have amazing companies that do that already. Oh, you want to do theater and you want to do it here for a living? There's actually a job for you. I feel like that is key, because we lose so many talented people because of that. So that's something I'm very passionate about.
Okay, so I think that could be the last word as well, don't you think? Okay, so I'm going to thank you both and thank the audience. And that has been a very fantastic talk, and hope you enjoyed it.
Thank you for listening to One City, Two Realities, Une Ville, Deux Réalités, brought to you by ACFOMI, l'Association canadienne française de l'Ontario, Conseil régional des Mille Îles, and produced by Titan Sound in Kingston. Music composed by Elizabeth Santos. ACFOMI souhaite remercier gracieusement Patrimoine Canada, the Kingston Frontenac Public Library, nos partenaires médias, nos commanditaires, et nos invités spéciaux. Visit acfomi.ca for the latest information on our podcast series, as well as all the bilingual events happening in the Kingston and Thousand Islands region.